Chapitre 12. Au liqueur, Marcel Lorieux, les yeux vagues, tenta de se lever encore une fois pour interpeller le commerçant. Mais à peine se fut-il dressé qu'il retomba sur sa chaise. Il resta un instant inerte, puis, comme si une âme d'enfant se fût éveillée en lui, il s'amusa à imprimer un balancement à ses bras pendants. Madame Lorenz avait approché sa chaise de celle de son mari et, à demi appuyée contre son épaule, fumait une cigarette. Aristide Baladis avait passé la bague de son cigare à son doigt dans un but bizarre, celui de plaire à Yvonne Stella. Chaque fois que, dans un restaurant, il avait longuement regardé une femme, ce qui ne manquait jamais de se produire, car de même que certaines personnes ne peuvent prendre un repas sans lire, de même il ne pouvait manger sans avoir, auparavant, découvert dans un coin quelconque de la salle une femme à regarder. Il éprouvait le besoin, au café, de paraître s'intéresser à une occupation enfantine. Il sentait vaguement que, de cette manière, il touchait le cœur de cet inconnu, qui lui montrait sa vie intime, et que, par conséquent, si les circonstances lui permettaient de lui adresser la parole, elle serait moins effarouchée. Yvonne Stella le regarda. Comme confus d'une distraction, il retira de son doigt la bague du cigare, et, sans quitter des yeux la chanteuse, la jeta avec l'air de dire « Comme je suis distrait !» Blanche Poitou, de son côté, avait pris dans son sac le télégramme de son mari et attendait une occasion de le faire passer au commerçant, cependant que son frère, qui avait voulu, sans raison, simplement parce que la chaleur des vins lui avait donné un besoin d'autorité, qu'une fourchette resta devant lui, bien que la table eût été desservie, parlait à Madame Delmont. Monsieur Duménil, lui, avait tiré son portefeuille de sa poche. Après un moment de recherche, il déplia une feuille de papier et la tendit à André Poitou. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda ce dernier. « Lisez, vous verrez, cela vous intéresse particulièrement. » « Après, monsieur le président, pas maintenant. Oublions un peu les affaires, je vous en supplie. » André Poitou était souriant, ses joues roses. Il faisait des clins d'œil à tous les invités, mais au hasard dans l'assistance, pour que l'on ne découvrît pas son manège. Parfois, il chantonnait. Yvonne Stella se penchait alors vers lui. « Chantez encore, disait-elle. Savez-vous que vous avez une bien jolie voix ?» Il se récriait, mais lorsqu'il supposait que l'actrice ne songeait plus à lui, il se remettait à chantonner. « Hep !» cria Jacques Soula. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le commerçant. « Rien !» Quelques minutes après, Jacques Soula recommença. « Hep ! Que veux-tu me dire ?»« Rien !»« Hep ! » cria-t-on encore, mais à l'autre bout de la table. Cette interjection gagnait du terrain. Bientôt, tous les invités se lancèrent des « Hep !»« Mais ce n'est pas une lettre, mon vieux !» fit le président du syndicat en reprenant le carré de papier que Poitou lui avait rendu sans même le déplier. « C'est le petit discours que je veux prononcer sur vous. Eh bien, puisque c'est ainsi, je ne vous le montre plus. Vous l'entendrez quand je le réciterai tout à l'heure. » « Et qu'est-ce que vous allez dire ?» demanda le commerçant. « Je dirai votre labeur, votre persévérance, et surtout, j'insisterai sur le fait qu'il y a tout de même une justice, quoi qu'en pensent certains. » « C'est vrai, » répondit mollement André Poitou. « Il n'y a pas de doute. S'il n'y avait pas de justice, on ne serait pas là. » Madame Wegener, qui avait surpris cette conversation, c'était d'ailleurs un de ses dons d'entendre tout ce que l'on disait autour d'elle, même au moment où elle était le plus exaltée, intervint. « Pardon, monsieur le président, permettez !» « Permettez » revenait sans cesse sur ses lèvres. À l'aide de ce mot, elle s'introduisait invariablement dans toutes les discussions. « Permettez, monsieur le président, je ne suis pas de votre avis. Vous venez de dire qu'il y a tout de même une justice, il me semble. C'est bien cela, n'est-ce pas ?»« Parfaitement, je ne me dédie pas. »« Je ne suis pas de votre avis. » Elle parlait sérieusement. Par une mimique grave, elle voulait laisser entendre qu'il y avait deux femmes en elle. Celle qui s'amuse en société et celle qui a, malgré cela, une profonde connaissance de la vie. Mais les mots lui manquaient. Selon elle, il n'y avait pas de justice. C'était une des seules convictions sincères qu'elle eut. Aussi se sentait-elle à court pour la défendre, tellement elle eût voulu bien le faire. « Expliquez-vous, madame, c'est facile de dire le contraire de quelqu'un, encore faut-il le prouver. Ce n'est pas en traitant les gens de polissons que l'on a raison. » « Oh, ça c'est fini. Je vous parle sérieusement, monsieur le président. Je crois bien sur cette question que j'ai la majorité. On peut demander à tout le monde. Tout le monde pense comme moi, n'est-ce pas, monsieur Poitou ?»« Peut-être, fit le commerçant, que le cœur poussait à approuver la générale, mais qui n'osait revenir sur son acquiescement de tout à l'heure. D'ailleurs, reprit monsieur Duménil, on ne peut se faire une opinion sur un tel sujet à la fin d'un tel repas. Il faudrait penser à cela dans la solitude et le calme. Mais comme en de tels moments cela ne nous arrive pas, je crois que jamais nous ne serons nettement fixés. » Très juste, approuva le commerçant. C'est bien cela, continua madame Wegener. Ce sont des hommes comme vous qui pourraient, s'ils le voulaient, tout éclaircir et qui ne s'en donnent pas la peine, qui font que nous, pauvres femmes, restons plongées dans l'obscurité. Pauvres femmes, répéta d'une voix larmoyante Jacques Soula. Obscurité, fit sur le même ton Louis Jarriche, qui copiait l'esprit des autres. Oui, nous sommes de pauvres femmes. Eh bien, moi, je ne trouve pas. C'est vous qui menez le monde. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes les maîtres invisibles de tous nos actes. Vous connaissez le proverbe « Cherchez la femme » et quoi ? Et vous trouverez le larron. Ce n'est pas cela, le proverbe. En tout cas, c'est quelque chose d'approchant. Assez, assez, parlons d'autre chose, fit monsieur Duménil. Il tenait à la main le carré de papier qu'il avait repris à André Poitou. Soudain, il se leva. L'expression grave qui se peignit sur son visage, la main qu'il tendit en avant pour demander le silence, frappèrent l'assistance. « Chut, chut » cria-t-on de toutes parts. Mais chaque fois que le silence se faisait, il se trouvait un invité qui jugeait spirituel de crier de nouveau « Chut !» À la fin, tout le monde se tut. Le président du syndicat jeta un regard circulaire sur la longue table. « Chut !» cria encore son fils, qui manquait toujours de mesure. Monsieur Duménil ne parut pas entendre. Il leva les yeux au ciel, les baissa, joignit les mains comme pour se recueillir, afin que rien du fluide qu'il croyait dégager ne se perdît, et commença de sa voix éraillée. « En cette minute !» Il s'arrêta, et, regardant dans les yeux l'invité qui se trouvait en face de lui, madame Billan, parut réfléchir quelques instants. Finalement, il reprit « En cette minute rare dans la vie d'un homme, il m'a paru que je devais, André Poitou, exprimer la pensée de tous vos amis qui, peut-être, ne se trouveront jamais plus réunis autour de vous. » D'un geste large, il désigna la salle. « Ils sont tous là. Je reconnais vos compagnons de lutte et là… » Il tendit l'index à l'opposé de l'endroit où se trouvaient Maurice et Blanche Poitou. « Vos chers parents et, à côté d'eux, vos fidèles collaborateurs. Nous sommes tous là. Tous nous avons voulu, à ce moment qui est comme le couronnement de votre vie, vous apporter par notre présence la preuve de notre amitié indéfectible. Je dis bien indéfectible. Rien ne saurait, à présent, nous diviser. Autour de vous, André Poitou, il n'y a que des cœurs qui fraternisent avec le vôtre, qui savent combien longue et combien pénible fut votre ascension. Je sais, il est des gens qui voient pour cause principale à toute réussite la chance. Nous ne sommes pas de cela. Nous savons que l'édifice que supportent vos robustes épaules a été construit par vous-même, pierre par pierre, jour par jour. Vous êtes un exemple de la persévérance, de la ténacité, de l'honnêteté des commerçants de chez nous. Le gouvernement ne l'a pas ignoré. En vous conférant la plus recherchée de ses distinctions, la Légion d'honneur, il vous a signifié que votre probité ne lui avait pas échappé. Il est donc consolant de penser que le bien finit toujours par triompher. » Le président s'interrompit un instant, tendit ses mains devant lui. « Le bien, grand mot que celui-là, et combien empli de sève. Il faudrait le génie d'un grand homme pour le définir. En cette brève allocution, je ne m'étendrai pas davantage, André Poitou. » Il se tourna vers le commerçant. « André Poitou, je vous dirai seulement ce que nous pensons tous. En cette minute, je me ferai le porte-parole de tous ses amis, car c'est l'apanage d'un homme comme vous que de n'avoir que des amis. Regardez-les, leurs yeux sont tournés vers vous. Ils ont vu l'honneur que ma situation me confère, cet honneur, André Poitou, de vous exposer, en des mots peut-être malhabiles et rudes, tellement mon émotion est grande, les raisons profondes de votre présence ici, à cette heure de votre vie. André Poitou, je me tourne vers vous, je prends cette coupe où pétille un champagne clair comme votre cœur, et je bois à votre santé. » Des applaudissements retentirent, des cris jaillirent de toutes parts, des convives se levèrent, et la main tendue, se dirigèrent vers le commerçant. « Bravo, monsieur Duménil, bravo, bravo, vive monsieur Poitou !» Le commerçant était ému aux larmes. Comme le président du syndicat ne s'était pas rassis, partagé entre le désir de continuer et celui de rester sur ce succès, André Poitou se leva à son tour et, prenant l'orateur par les épaules, l'embrassa à plusieurs reprises. Les applaudissements redoublèrent. Soudain, on entendit une voix perçante qui criait « Permettez, permettez !» C'était Madame Wegener. Elle voulait parler également. Mais 2 heures dans sa compagnie avaient permis à tous les convives de la connaître. Les farceurs criaient « Chut !» Les hommes sérieux « Assez !» Dans le vacarme, on lui lançait des colibés. « Drôle de général, qu'elle se taise ! C'est fini maintenant !» « Elle parle trop, on en a assez !» Habituée qu'elle était à voir toujours changer les gens ainsi, Madame Wegener ne s'en souciait pas. Au contraire, elle tentait de tenir tête à toute l'assistance. Son caractère la poussait à crier de plus en plus fort à mesure que plus d'opposition se dressait contre elle.